Frères et sœurs, bonjour. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vous proposer une lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, et particulièrement au verset 19. C'est un texte qui commence le soir, et nous sommes le matin, mais vous verrez qu'avec le Seigneur, s'il y a un soir, il y a aussi un matin. Le soir de ce jour, verset 19, ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, et si vous le voulez bien, on pourra dire, très bien. Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine. Peut-être vous avez vécu une bonne semaine. Moi, personnellement, j'ai vécu une semaine troublée, parce que j'ai perdu un ami. Il est plus qu'un ami d'un frère, votre serviteur, dont on se connaissait depuis 1958. Et je le disais au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je dise à ton peuple ce matin ?» Et alors il a attiré mon attention sur ce texte, sur ce culte de cette première petite église, composée de 11 hommes, mais on pourrait ajouter aussi Marie de Magdala et l'autre Marie, bien sûr. Petite église. S'il y en avait une qui avait été troublée, c'est cette première petite église. Elle venait de perdre son sauveur, son Seigneur. Il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Donc, je voudrais attirer votre attention sur ce culte-là. Ce culte où cette église est rassemblée alors qu'elle vient de traverser par ce qu'on appelle la semaine sainte, mais de troubles et de souffrances, puisque Jésus a connu Gethsémané, la trahison, l'accusation, le reniement, la flagellation et la crucifixion. Alors mettez-vous à la place de ces 12 ou 13 personnes et 11 apôtres, j'exclus Judas, pour comprendre qu'ils avaient vécu une semaine troublée. Et cela même à vous poser une petite question, frères et sœurs, est-ce que ça vous arrive ou est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être déçus? La déception. C'est-à-dire qu'on s'attendait à quelque chose, et ce quelque chose ne s'est pas produit. On s'attendait à toutes ces belles promesses que nous pensions, et ces promesses ne se sont pas réalisées. Nous avions un ami, et nous avons un ami, et vous avez peut-être un ami qui vous ignore quand tout va bien, et qui vous oublie, et qui pense à vous quand ça va mal pour lui. Ça aussi, c'est une déception. Quand notre famille, nos foyers, ne partagent pas notre foi, notre espérance, c'est aussi une peine dans notre cœur. Et comme le dit Ésaïe, le prophète, au chapitre 59, la déception, c'est de voir que rien ne bouge. Le prophète dit, on attendait la paix, et on a la guerre. On attendait la consolation et on a la lutte. On attendait et on a. Donc la déception, ça peut arriver aux enfants de Dieu. Et frères et sœurs, c'est pour ça que ce texte est important. Parce que nous allons assister à un culte où tous ceux qui sont présents sont troublés. Tous ceux qui sont là. Alors je ne sais pas quelle ambiance ça va faire le culte quand tous les enfants de Dieu sont réunis et qui sont troublés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va pas être glorieux. Eh bien, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et je disais au Seigneur, encore cette nuit, Seigneur, si tu veux que je dise ça, il faut que tu le confirmes. Parce qu'il y en a qui vont dire, c'est trop beau pour être vrai. Alors nous comptons sur l'action du Saint-Esprit. La parole et l'Esprit. Mes frères et sœurs, ce culte, qui aurait dû être un culte de lamentation de Jérémie, a été transformé par quatre grandes vérités. Quatre! Les mêmes que nous avons ce matin. Et je vais les partager avec vous si vous le voulez bien. La première chose, c'est que je lis dans ce texte au verset 19, « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. » Voilà la première chose. L'attitude de Jésus. Le premier jour. Il n'a pas attendu longtemps. Sa priorité, mes frères et sœurs, sa priorité, c'était de venir voir son peuple. Son premier geste, sa première parole, sa première recherche. Une fois qu'il est sorti du tombeau, qu'est-ce qu'il cherche? Des anges? Non. Des soldats? Non. Pilate? Non. Judas? Non. Il cherche les enfants de Dieu. Parce que l'amour de Jésus est tel qu'il aime à être avec ses enfants de Dieu. Et ce matin, c'est cette première richesse que j'aimerais partager avec vous. Parce que quand il est venu vers ses apôtres, c'est pas écrit, mais vous avez l'impression, j'ai l'impression que c'est avec joie. Regardez bien. Il vient très tôt. Très tôt, il dira à Marie de Magdala qu'il est ressuscité. Très tôt. Il va pas attendre longtemps. Et non seulement très tôt, mais souvent. Regardez, dans une journée, je crois qu'il a eu 4 rendez-vous. Dans une journée. 4 rendez-vous. Avec qui? Avec ses apôtres. Avec Marie, c'est vrai. Avec Simon, c'est pas où exactement, c'est pas écrit, mais avec Simon, il est apparu à Simon. Il est aussi ensuite apparu à 2 disciples qui s'en allaient la tête basse vers Emmaüs. Il a fait le déplacement. Il a passé tellement de temps avec eux qu'il leur a expliqué depuis les livres de Moïse jusqu'aux prophètes. Ça prend du temps, ça. Hein? Il leur a expliqué tout ce qui le concernait. Et quand il leur a expliqué ça, ces gens au cœur froid ont dit « Notre cœur brûle au-dedans de nous. » Oui, frères et sœurs, dès qu'il est ressuscité, son premier geste, c'est d'être au milieu de nous. Sa première priorité, sa priorité des priorités, c'est d'être au milieu de nous. Car il les a cherchés dans des lieux différents, dans un cimetière. Vous avez déjà vu, vous, quelqu'un qui sort du cimetière, rayonnant de joie? Eh bien, Marthe, Marie de Magdala, quand elle est sortie du cimetière, elle est sortie avec un message. Jésus-Christ est vivant! Dans un cimetière. Quelle puissance, l'évangile, n'est-ce pas? Dans une maison où les apôtres sont enfermés, il vient vers eux et leur parle. Dans un autre endroit, j'ai noté, dans un autre endroit de la parole de Dieu, on le voit non seulement s'approcher, mais de faire un chemin, de se faire une petite promenade avec les disciples d'Emmaüs. Et dans un autre texte, il est écrit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus vint au milieu d'eux. Et vous, partout, ils sont à table, ils sont au cimetière, ils marchent, ils sont enfermés, ils sont tout seuls. Le Seigneur aime là où sont réunis ses enfants, et ce matin, il m'a chargé de vous le rappeler, il aime être parmi nous. Et parce qu'il aime être parmi nous, et parce qu'il est ressuscité des morts, il est au milieu de nous. Quand on dit ça, Satan s'en va, croyez-moi. Ô mort, où est ta victoire? Christ est ressuscité. Frères et sœurs, cela nous amène aussi à réaliser que aucun obstacle empêche sa présence. Tenez, quand il est mis dans le tombeau, on a mis un obstacle pour pas qu'il sorte. Une pierre. Croyez que la pierre a empêché Jésus de sortir? Il l'a roulé. Et pour montrer bien que c'était fort, un ange est assis dessus. Les gens s'assoient sur toutes les défaites de Satan. La pierre a été roulée. Ici, l'Écriture nous dit que non seulement la pierre a été roulée, mais la porte est fermée. Et il passe quand même. Aucun obstacle. l'empêche de venir jusqu'à nous. Et ce matin, croyez-le, sentez-le, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il est là, au milieu de son peuple, et il a dit, je suis avec vous. Vous le croyez? Bien. Alors, on va aller un petit peu plus loin, si vous le voulez bien. Peut-être que ce matin, ma sœur, mon frère, tu es venu avec une montagne de déception. Et tu dis, eh ben, Seigneur, comment tu peux venir dans ma vie? J'ai une montagne, j'ai un amas de déception sur moi. Que puis-je faire? Alors, vous allez voir que même la montagne n'a pas de pouvoir sur le Seigneur. J'aime ce passage, je vais vous le dire. Ce passage du Cantique des Cantiques. Pas facile à trouver, c'est un tout petit livre. Mais voici un passage que je vais vous lire. Où l'Église, enfin, l'image de l'Église, dit, la voix de mon bien-aimé se fait entendre. Le voici, il vient. Je le vois venir jusqu'à moi. Il saute sur les montagnes. Il bondit sur les collines. Il est semblable à des gazelles et à des biches. Il est là près de moi. Il me dit, lève-toi, mon ami. Voici l'hiver est passé. Voici maintenant le temps des champs. Frères et sœurs, aucun obstacle empêche le bien-aimé de venir voir la bien-aimée. Il court sur les montagnes, il saute sur les montagnes, il traverse les vallées. Alors croyez bien que ce matin, que ce soit une pierre, que ce soit une porte fermée, que ce soit une montagne de déception, Jésus est plus fort, plus grand et vainqueur. La deuxième vérité, pour ces hommes et ces femmes qui sont là dans la déception, c'est, regardez, ce que dit le verset 20, ce que dit le verset 19. Hein. Jésus vint et se présenta où? À la sortie? Sur l'estrade? Il n'y en avait pas. Au milieu. Pourquoi au milieu? Parce que quand on est au milieu, tout le monde est proche de vous. Ici, nous sommes là, et vos frères et sœurs sont au dernier, sont loin. Mais quand on est au milieu, quand on est réunis en rond, on est tous près les uns des autres. Et Jésus a choisi cette place au milieu parce qu'il voulait que nous comprenions que non seulement il nous aime, mais sa place centrale, sa place nécessaire, sa première place, ce n'est pas être dehors à côté, c'est d'être au milieu de nous. Comme on chante des fois, Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Frères et sœurs, sa place est là, au milieu de nous, dans l'Église, à la porte dorée ce matin. J'en suis convaincu. Il est là, au milieu de nous, et est en train de vous entendre, de vous remarquer. Et qu'est-ce qu'il fait au milieu? Quelle est sa première action quand il est là, au milieu? Eh bien, c'est de nous parler. Et de nous parler avec une phrase très simple. La paix soit avec vous. Voilà pourquoi ce culte qui aurait dû être triste va devenir un culte plein de vie, plein de force, parce que le Jésus qui est au milieu de nous et qui sait l'épreuve humaine et spirituelle aussi que nous avons passée, nous dit « Ne crains rien, je suis avec toi, que la paix soit avec toi. » Et alors, attendez frères et sœurs, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, la paix. Mais vous allez voir qu'aussitôt il leur montre sur quoi repose cette paix. C'est facile de dire à quelqu'un « paix, paix ». Regardez ce qu'il dit. Que la paix soit avec vous. Et aussitôt, après avoir dit, qu'est-ce qu'il fait? Il leur montre ses plaies. D'accord? Ça veut dire que nous avons la paix grâce aux plaies de Jésus. Nous avons la paix parce que Christ a souffert pour nous. Nous avons la paix parce que Jésus a été blessé pour nous. Nous avons la paix parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et quand il nous dit au milieu de nous que la paix soit avec nous, il nous rappelle que la paix de Dieu est reliée à la parole de Dieu. Et c'est parce que la parole demeure en nous que nous avons la paix. La paix de Dieu qui nous est donnée aussi par le Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Voilà la deuxième richesse que Jésus partage avec ses apôtres. Il leur dit que la paix soit avec vous. Ça veut dire, je sens qu'il leur a dit ça, vous savez mes enfants, je vous ai aimés avant la fondation du monde. Avant que le monde fût né, je vous ai aimés, le croyez-vous ? Ma sœur, mon frère, peux-tu dire amen ? Avant que tu naisses, alors que tu t'étais peut-être qu'une masse informe, il t'aimait. Et c'est ce que Jésus leur a dit, la paix soit avec vous, parce que avant que vous naissiez, je vous aimais, et je vous ai tellement aimé, regardez, j'ai gravé votre nom dans mes mains. J'ai tellement aimé que mon sang a coulé pour vous racheter. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire, la paix soit avec vous. Non pas parce que vous et moi, nous sommes les meilleurs, mais parce que Christ a été le meilleur. Et c'est sur lui que vous et moi, nous pouvons ce matin apporter la louange et l'adoration. La principale image que les apôtres vont avoir, c'est pas un petit bébé dans une crèche le jour de la naissance, qui devient plutôt le centre du commerce et du vol et de la débauche. Non, l'image qu'ils ont gardée, c'est un Christ blessé et un Christ ressuscité. Et c'est exactement la base de notre foi. C'est celle qui est là dans l'Évangile. Cela nous amène, mes frères et sœurs, à aller un tout petit peu plus loin. La parole. La paix soit avec vous. C'est moi qui le dis, Jésus. C'est ma parole. Et je me suis dit, à l'Église, on lit la parole. Mais toi, Seigneur, tu savais lire. À l'époque, tout le monde savait pas lire, mais Jésus savait lire. Et vous avez remarqué que quand c'est lui qui parle, il se passe toujours quelque chose. La première fois qu'il a ouvert la Bible, c'était où ? Non, c'était pas la porte dorée. Non. Oui, c'est dans l'Évangile. Voilà, chapitre 4. Il est où, Jésus ? Dans la synagogue. Il ouvre la parole. Il la lit, c'est tout. Et tous avaient les yeux sur lui et étaient étonnés des paroles de grâce qui sortait de sa bouche. C'est pas vrai, ça? Ah, quand Jésus ouvre l'Écriture. Et puis, retrouvez-le aussi, non plus dans la synagogue, mais dans l'auberge. Pas un endroit où on lit. Dans l'auberge, il a ouvert les Écritures de Moïse jusqu'à l'Évangile, montrant par là qu'il fallait que le Christ souffre. Et c'est ce qui a, je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui a réchauffé le cœur des disciples d'Emmaüs quand il ouvre la Bible. Et quand la Bible s'ouvre par lui, nos cœurs, mes frères et sœurs, sont réchauffés. Et notre âme bénit son nom, et nous sommes étonnés des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Je le disais au Seigneur, le Seigneur dit, mais Moïse, tu oublies une chose. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et même, il me dit que j'avais oublié ceci. C'est que dans le ciel, au chapitre 5, au verset 4, on se pose une question, qui ouvrira les livres? Le livre? Qui ? Et l'Écriture nous dit, personne. Sauf que, il y avait l'agneau de Dieu, qui avait été comme immolé, c'est écrit comme ça. Et lui fut trouvé digne d'ouvrir la parole. Et ce qui est extraordinaire, mes frères et sœurs, c'est que dans le ciel, quand le Seigneur ouvre le livre, les livres, c'est où ce qu'ils vont ? Les anciens, ils prennent une harpe, et ils chantent. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Et vous allez faire avec moi. Oui, gloire. Gloire. Encore. Gloire. Louange. À celui qui nous a là. Qui nous a tant aimés. Pardon, c'est pas. Par son sang nous a. Ah! Qu'est-ce qu'on lui dit? Sois. Je pense que c'est une des paroles du frère Barma quand il est rentré dans le ciel. Gloire à l'agneau ! Troisième chose que le Seigneur nous laisse pour que nous puissions vivre, c'est après nous avoir ouvert les Écritures, vous remarquerez que les apôtres passent par la joie. Et la joie. Et si vous lisez encore les textes, il dit, hein, mais quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez, la joie, le doute. Vous ne croyez pas que c'est un peu comme ça? On est, pas vous, mais moi, je suis un peu clochard. Je passe des fois à la joie, au doute. De la paix à la peur. Pas vous, ça vous arrive pas, vous pouvez pas comprendre. Mais c'est ça, on balance des fois, on dit, oui Seigneur, tu le dis, mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est... Puis on se casse la tête, puis on téléphone à quelqu'un pour avoir une explication. Et au lieu d'avoir l'explication, ça nous enfonce, on n'y comprend encore plus rien. Mais si on laisse le Seigneur nous parler, on entend sa voix nous dire que la paix soit avec vous. L'Écriture nous dit, ce beau passage d'Ésaïe 64, verset 3, je vais vous le lire, hein. Mais vous pouvez le lire dans la parole de Dieu. Il m'a marqué sur votre Bible. Et tout à l'heure, on la lira ensemble. Le Seigneur, donc, triomphe. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Frères et sœurs, on se ressemble souvent avec Marthe et Marie. Vous croyez pas? Regardez, au moment où Lazare est mort, au moment où il était au tombeau, il s'est passé du temps. Entre la prière, Seigneur, celui que tu aimes est malade, on disait ça. Et puis, ça n'a pas été, il est mort. Vous vous souvenez de ça? Il est tellement mort qu'il commençait à sentir. Et la première prière que Marthe et Marie ont faite au culte ce jour-là, Seigneur, si tu avais été là! Et Jésus va répondre, regardez bien, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et certaines personnes, pas ici parce que c'est parfait, disent, ah oui, mais s'il y a des problèmes comme ça dans l'église, c'est parce que quoi? Jésus dira un jour devant l'échec de ses apôtres, et à un homme dans le découragement, ceci. Nous disons, si tu avais été là, au milieu de nous. Et le Seigneur est en train de m'entendre dire ça. Mais Seigneur, tu sais que je crois que tu es au milieu de nous. Ça ne serait pas arrivé. Et regardez la réponse de Jésus à un homme. Il dit à cet homme, si, lui aussi Jésus, on prend le mot. Il dit, si tu peux seulement croire, alors tout est possible. Que tu me vois ou que tu ne me vois pas, si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est un si. Ah, c'est une belle note de musique, et c'est pas un si bémol. Mes frères et sœurs, puissions-nous ce matin dire, Seigneur, s'il te plaît, augmente-nous la foi, afin que nous puissions t'adorer. Jésus est là. Le croyez-vous? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le croyez? Donc s'il était là physiquement, qu'est-ce que vous lui diriez? Pensez. Qu'est-ce que vous lui diriez? Il est là, spirituellement, il est là. Aussi vrai que nous sommes ici. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Allez. Merci. À toi la gloire. Louange. Adoration. Gloire à toi. Gloire à toi. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Gloire à toi. Eh ben, dites-le. Dites-le encore. Jésus est là physiquement. Alors vous dites gloire à toi, puis vous pensez, Seigneur, je te parle pour mon mari, pour ma femme. C'est ça que vous diriez. Je te parle pour ma santé précaire. Je te parle pour mes difficultés. Seigneur, je t'adore et je t'ouvre grand mon cœur. C'est pas ça que vous feriez? Eh bien, faisons-le ce matin. Apportons tout au pied du Seigneur, puisqu'il est là. On est un peu comme Thomas qui disait, si je ne vois pas, mais par la grâce de Dieu, je pense que la majorité d'entre nous ce matin, on voit peut-être pas, on sent peut-être pas, mais on croit vraiment. Je voudrais terminer, mes frères et sœurs, par ce texte, cette quatrième grâce que le Seigneur nous donne. C'est ses dons. Il a donné trois choses. Vous savez, quand on visite quelqu'un, ça vous est pas arrivé de visiter quelqu'un? Et vous dites, qu'est-ce que je vais lui offrir? Alors bien sûr, les horticulteurs vont vous dire, dites-le avec des fleurs. Les gourmands vont dire, il aime bien le chocolat. Alors Jésus, lui, quand il vient, le premier jour de la semaine, au milieu de ces gens qui sont secoués, balayés, tourmentés, déçus, il leur dit, voilà, je vais vous donner trois choses. Première chose, que vous n'oublierez jamais, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un songe, je ne suis pas un rêve, je suis vivant. Le premier don, c'est de se rappeler, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus est réellement vivant. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et j'aimais souvent, lorsque le Seigneur m'a conduit dans les pays de l'Est orthodoxe, de rencontrer quelques croyants orthodoxes, et quand on se serrait la main, je tendais la main, que le Seigneur vous bénisse, et je disais, le Seigneur est ressuscité. Et c'est ce qu'il me répond. Oui, il est vraiment ressuscité. Et l'autre jour, la femme et moi, on était obligés d'aller voir le médecin pour des petits contrôles, vous savez, des renouvellements de petites pilules agréables. Et en le quittant, c'est un orthodoxe, je lui dis, docteur, Jésus est ressuscité. Pour le moment, il dit, il est vraiment ressuscité. Oui, mes frères et sœurs, toute la force, elle est là. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et regardez le deuxième cadeau. Premier cadeau, je suis vivant. C'est là. Deuxième cadeau, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père n'a pas envoyé Jésus pour qu'il crée la religion de Jésus. Il a envoyé Jésus dans le monde pour que le monde soit sauvé, pour que les hommes soient sauvés, pour que les malades soient guéris, pour que les démons soient chassés. Il a envoyé Jésus pour dire au monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mes frères et sœurs, voilà notre vocation à nous chrétiens. Nous sommes chargés par Jésus de dire au monde que Dieu les aime et que Jésus est vivant. Frères et sœurs, vous remarquerez qu'on a souvent facile, quand on rend témoignage, de dire « Dieu, Dieu, Dieu ». Mais oui, Dieu est Dieu. Mais tant qu'on n'a pas le Fils, on ne peut pas avoir le Père. Et c'est quand on se tourne vers le Fils qu'on voit le Père. D'accord ? Et vous remarquerez que Jésus, on n'en parle pas tout de suite. Êtes-vous croyant ? Mais croyant en Dieu. Mais le musulman vous dira aussi. Mais la différence, c'est que vous et moi, mes frères et sœurs, nous croyons que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et j'imagine Jérusalem, quand ils ont découvert que Jésus était ressuscité, de maison en maison, on devait dire, il est ressuscité! Il est ressuscité! C'est pas possible. Il est ressuscité! Et partout, il y avait des voix qui pouvaient dire, il est ressuscité! Et cette belle voix qui ajoute, il est réellement ressuscité! Oui, frères et sœurs, ça c'est le cadeau de Dieu. Le cadeau de Dieu qui nous permet d'apporter la résurrection. Et je vais vous dire une chose. C'est que si un message que le diable n'accepte pas, la croix n'accepte pas, mais il y a un autre message qu'il accepte encore moins, c'est de dire que Jésus est ressuscité. Pourquoi ? Parce que Jésus ressuscité, la mort est vaincue. Bon, et oui, regardez bien, l'Écriture nous le dit, nous l'affirme, Jésus est réellement ressuscité, c'est le message que nous allons donner, et les apôtres, vous savez quel est le message des actes des apôtres ? Eh bien, les apôtres disaient partout, Jésus-Christ, que vous avez crucifié, que vous avez condamné, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et quand les apôtres ont dit ça, toute la religion de l'époque était, c'est écrit, mécontent. Les Sadducéens étaient mécontents de ce qu'ils annonçaient, la résurrection. Parce que c'est un message qui ne plaît pas à l'enfer. Jésus-Christ est ressuscité. La grande évangéliste et apôtre Paul, acte 17, dans la ville d'Athènes. Il parle, on l'écoute. Quand il parle de Dieu qui a créé, on l'écoute. Mais quand Paul parle que Jésus est ressuscité, ils ont tout de suite dit, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et à la fin de sa vie, Paul écrivant dira, mes frères, si je suis devant le tribunal, c'est parce que je crois que Jésus est ressuscité. Alors, frères et sœurs, ayons ce message pendant ces moments de fête qui pour moi, ne veulent rien dire. disons à nos amis, à nos parents, à tous ceux qui nous entourent, Jésus est vivant. Ils vont peut-être se moquer, ils vont être mécontents, mais tôt ou tard, il y aura une bonne réaction. Car Denis, l'aéropagiste et quelques-uns à Athènes se sont convertis à Jésus-Christ. Et le troisième don, sa personne. Le deuxième, sa mission. Et le troisième, son souffle. Il l'a dit, je recevais le Saint-Esprit. La première image de ce qui va venir quelque temps après, sous la forme d'un vent impétueux. Je souffle sur vous. Et ces frères et sœurs, ce qu'on chante bien souvent, on souffle sur vous. Souffle sur nous, pardon Seigneur, remplis-moi de ta vie. Jean-Baptiste dit, il viendra et il vous baptisera d'esprit et de feu. Et c'est ce que par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous croyons, souffle sur moi Seigneur, remplis-moi de ta vie. Le souffle de Dieu, frères et sœurs. Vous lirez Ésaïe chez vous surtout, le texte que je vous ai donné tout à l'heure. Mais le souffle de Dieu, savez-vous ce qu'il fait quand il souffle des quatre vents? Non, c'est pas. Quand il souffle des quatre vents sur des os blanchis, desséchés, séparés, eh bien, il est capable de les réunir, de mettre la chair dessus et de les faire vivre. Ça, c'est notre Dieu. Et ce Dieu-là, il est là. Et Satan doit l'entendre. Nous y croyons. Voilà le cadeau de Dieu. Jésus, sa mission et son souffle. Parce que vous et moi, nous croyons son souffle, c'est l'éternité.